Marina au micro pour votre matinale. Bonjour Victoria. Maintenant, nous avons par téléphone en direct François Macon, journaliste aux affaires municipales pour Radio Victoria. Bonjour François.
Bonjour Marina.
Eh bien, en retour d'une longue fin de semaine, mais apparemment, il s'est passé pas mal de choses pendant ces 3 jours et même la semaine passée, on n'avait pas eu l'occasion de se parler.
Exactement, on avait mis un petit peu en pause en attendant de pouvoir s'écouter du moins à la radio. Il y avait un conseil jeudi dernier à Victoria, un conseil municipal, et c'était sans doute l'un des plus longs conseils municipaux auxquels il m'était donné d'assister, puisqu'il a duré plus de 8 heures, avec en tout une vingtaine de motions. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, Victoria prend la mesure de cette crise et apporte des solutions, des mesures à la hauteur de l'impact qui aujourd'hui affecte l'ensemble des résidents de la ville de Victoria. Et alors, il y en a eu tellement, je les ai regroupés par thème, et sans doute le plus important, celui qui a eu l'objet le plus d'attention, je dirais que c'est le transport en commun et le déplacement dans la ville. Je pense pouvoir dire de manière mesurée qu'il y aura un avant et un après Covid-19 dans la perception, dans notre usage de la ville à Victoria, puisque on en avait déjà parlé ici avec toi à l'antenne, et j'ai fait également une émission de regard sur le Grand Victoria consacré à ce sujet, notamment en recevant Marie-Soleil Cloutier, qui était professeure à l'INRS. Et nous avions effectivement parlé de comment les mesures temporaires qui visent à attribuer plus d'espace pour la circulation des piétons et des vélos dans la ville pour garantir la distanciation physique pourraient revêtir un caractère plus permanent. Et effectivement, ça va être le cas, puisque toutes les rues piétonnisées, comme vous savez, celles par exemple à Simcoe ou sur Government, vont rester en l'état pendant au moins un an, ou jusqu'à l'apparition d'un vaccin contre le Covid-19. Donc ça avait effectivement consacré beaucoup plus de place à la circulation piétonnière dans Victoria. Il y aura aussi également la gratuité des bus désormais pour les moins de 18 ans, qui pourront se déplacer dans la ville jusqu'au mois de septembre de manière gratuite.
C'était déjà question de ça auparavant, de la gratuité pour les moins de 18 ans?
Oui, c'est déjà question. Alors, le conseil est allé plus loin et a demandé, parce que vous savez que le transport est une compétence de la province, donc a demandé à la province d'établir la gratuité permanente du transport public pendant la crise du Covid-19, mais en tout cas, elle a déjà obtenu que le transport soit gratuit pour les moins de 18 ans. Donc simplement, si vous avez moins de 18 ans et que vous voulez obtenir ce pass gratuit, il faut vous rendre sur upass.victoria.ca. Donc, ça s'écrit upass.victoria.ca. Voilà, en tout cas, une mesure qui est efficace et qui va être en place tout de suite. Et puis, il y aura également Bacon Hill Park, qui sera désormais complètement fermé aux automobilistes pendant au moins un an, lui aussi. Donc, au départ, là, on était sur une mesure test, et puis c'est quelque chose qui va se pérenniser, finalement. Et puis, également, on en avait parlé avec toi à la fin du mois de mars, le conseil municipal avait décidé de baisser les tarifs des parkings dans la ville de Victoria, avec un maximum de 5 $ par jour et avec une moyenne d'1 $ par heure. Et donc, ces nouveaux tarifs vont rester en vigueur jusqu'au 10 septembre de cette année.
Donc, c'est tout de même à chaque fois des décisions sur un long terme.
Oui, c'est ce que je disais. Je pense, en fait, finalement, toutes ces mesures qui avaient un caractère provisoire vont désormais avoir, on va dire, des conséquences plus pérennes et à plus long terme. Et vont changer, je pense, notre manière d'user, notre expérience d'usager de la ville, très clairement. Puisqu'il y aura aussi, alors, dans un deuxième volet, par exemple, on en avait déjà également parlé pendant cette crise, la ville de Victoria avait apporté une réponse, vous savez, à travers le programme Growing in the City, qui permet aux résidents d'utiliser des potagers, enfin des espaces publics de la ville parfois, pour faire des petits potagers, des jardins communautaires ou des jardins partagés. Il y a eu une motion qui est passée en ce sens pour aller encore plus loin, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux résidents qui vivent dans des espaces avec plus de densité, c'est-à-dire, je pense, à des immeubles où il y a moins, par exemple, d'espaces verts ou de jardins, de pouvoir explorer d'autres pistes, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des espaces qui appartiendraient à la municipalité pour justement faire pousser des plantes ou des légumes dans ces jardins potagers.
Donc ça aussi, ça va rester. Ça c'est un beau projet finalement, parce que ça fait longtemps que ces espaces-là étaient laissés à l'abandon, on peut dire.
Oui, et puis ça permet effectivement tout un cercle vertueux, c'est-à-dire que moins de consommation des produits importés, d'avoir aussi une forme d'autonomie, presque même de souveraineté alimentaire pour certains habitants.
Oui.
Et c'est vrai qu'en ces temps difficiles, c'est quand même pas mal. Et donc, il y a eu énormément de choses. Je vais peut-être continuer encore sur... il y a eu un très gros programme sur le soutien, comment apporter du soutien au secteur de l'art et de la culture, puisque vous savez qu'il va être profondément impacté cet été, puisque tous les festivals vont être très vraisemblablement annulés ou du moins reportés. Donc, la ville a étudié... C'est un programme, on va dire, essayer de structurer un programme de subvention qui va pouvoir se déployer. Au final, lors de ce conseil, les élus ont quand même attribué 1,2 million de dollars en subvention. Donc, ce qui est relativement énorme.
Et, tu nous en parlais aussi la dernière fois dans un de tes articles. C'est la mairesse Lisa Helps qui a fait savoir que la galerie d'art du Grand Victoria est gratuite.
Oui, ça va être gratuit. Il y avait un délai limité, je ne me rappelle plus exactement jusqu'à quand, mais c'est une très bonne nouvelle ça. Et surtout, pendant la pandémie, la galerie d'art restait ouverte de manière interactive, puisqu'elle proposait toute une offre culturelle en ligne, et cette offre va perdurer. Donc, pour les gens qui ont envie de se rendre sur place, ils peuvent désormais le faire, et c'est gratuit, jusqu'à la fin de l'été, si je me rappelle bien. Et puis, il y a aussi toute la programmation culturelle qui est encore en ligne sur la galerie d'art. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on était quand même sevré d'offres culturelles depuis ces derniers temps. Et puis, alors il y a tout un pan que je voulais aussi aborder ici et que j'avais déjà un petit peu abordé la semaine précédente dans mes articles sur radiovictoria.ca. C'est tout un ensemble de mesures qui sont à destination du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et des petits commerces en centre-ville. Et encore une fois, des mesures qui vont changer radicalement notre expérience du centre-ville, puisque les élus ont décidé d'attribuer de l'espace public, c'est-à-dire des trottoirs, parfois même des morceaux entiers de rue, pour que ces exploitants de restaurants, d'hôtels ou ces petits commerçants de détail puissent étendre leurs terrasses et leurs étals sur les rues pour effectivement à la fois respecter les mesures de distanciation physique, puisque vous savez que les rassemblements de plus de 50 personnes sont toujours interdits, et puis aussi pour pouvoir donner un grand bol d'air à ces commerçants et à ces professionnels du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que cette semaine, j'ai reçu dans mon émission Regard sur le Grand Victoria un invité, Laurent, qui est propriétaire et gérant de deux établissements de restauration dans le centre-ville de Victoria. Il est francophone et avec qui nous avons parlé effectivement de l'impact de la pandémie sur son activité et comment il percevait justement ces mesures. Et évidemment, il les a reçues de manière assez favorable, je peux vous le dire ici.
Oui, parce que bon, cette initiative, c'est avant tout pour une question sanitaire, mais aussi ça va donner une énergie complètement différente au centre-ville de Victoria qui habituellement en fait est envahi par les autos. Il y en a partout, stationnés, qui circulent, alors qu'il n'y a pas forcément de raison en plus d'être avec son véhicule comme ça dans le centre-ville. C'est quand même assez bien desservi une fois qu'on est dans le centre-ville, mais là, l'énergie va être complètement différente avec ces terrasses qui vont être étalées sur les rues, plus de piétons. Je pense que ça va être très bon pour l'économie, justement. Ça va inciter à...
Ça va être bon pour l'économie et pour l'écologie, pour l'environnement. Ça va être très bien. Et d'ailleurs, ça fait partie du plan de Victoria sur... C'était un autre rapport qui a été étudié jeudi en conseil municipal. C'est Victoria 3.0. Et dans ce grand plan, c'est le plan pilote du développement économique de Victoria sur 20 ans qui va nous amener jusqu'en 2040, il y a tout un pan de ce plan qui est consacré justement à la réduction des gaz à effet de serre. Et dans ce plan, il était indiqué qu'aujourd'hui, tout le transport, enfin, parmi la totalité du transport qui se fait dans et aux alentours de Victoria, c'est 12% qui se fait avec du transport en public, du transport en commun.
C'est très peu, hein.
Très peu. Et le plan, c'est d'arriver d'ici 10 ans, en 2030, à monter cette proportion à 25%, voire même 30%. Donc effectivement, on va vraiment changer notre expérience de Victoria, je pense. Et ça me fait aussi rebondir sur ce que je disais en introduction. Je suis très content d'ailleurs d'avoir reçu Marie-Soleil Cloutier lors de mon émission, puisque effectivement, elle avait bien expliqué, et si vous avez envie de réécouter cette émission, c'est très intéressant et je vous invite à le faire, comment les villes, comment les municipalités et parfois même les échelons supérieurs, c'est-à-dire les provinces, et les gouvernements fédéraux s'engager dans cette voie de piétoniser de plus en plus et de réduire l'espace qui était habituellement consacré à l'automobile. Eh bien, tout ça se fait par petites tranches en fait, par paliers, souvent par des mesures expérimentales. Et puis on se rend compte que ça marche très bien, et c'est le cas d'ailleurs puisque les élus ont été tout à fait satisfaits de l'expérience d'avoir clôturé Beacon Hill, de l'avoir fermé à la circulation Beacon Hill Park. Et donc à la faveur des résultats satisfaisants et du retour satisfaisant aussi des utilisateurs, des usagers, nous, hein, des résidents, eh bien, on s'aperçoit qu'on va vers plus de transports actifs, d'espace pour les piétons. Et donc, cette pandémie a au moins, cette qualité, c'est qu'elle relève des opportunités que nous pouvons saisir pour pouvoir changer nos habitudes et nos manières de nous déplacer.
Oui,
et
c'est puis, ça. Des questions d'habitude avant tout.
Exactement. Et puis... Exactement. Donc, et puis juste pour conclure aussi, après il y a eu des appels un petit peu aux échelons de gouvernement supérieur, donc à la province, toujours dans le registre effectivement pour sécuriser du logement. Donc on sait que la province désormais a répondu puis a sécurisé du logement en faveur des personnes vulnérables et des sans-abri. Il y a eu une motion qui est passée pour que désormais des solutions d'hébergement soient sécurisées pour tous ceux qui perdent leur logement dans cette crise et pas uniquement les sans-abri. Donc ça a été officiellement demandé à la province. Et puis une autre demande qui a été formulée à la province, c'est de réouvrir le plus rapidement possible et dès que les conditions sanitaires seront réunies, la frontière avec les États-Unis, qui permettrait d'avoir à nouveau un flux touristique conséquent, notamment pour l'été qui arrive. Et puis une demande assez osée, j'allais dire, mais très intéressante, une demande cette fois-ci faite et formulée à l'échelon fédéral, de créer un impôt sur la fortune. Alors, moi je disais que Victoria avait pris la mesure complète de cette crise, le Conseil s'est prononcé en faveur de la création d'un impôt sur la fortune et l'a demandé directement à adresser sa demande au gouvernement fédéral.
Parce que ça n'existait pas du tout auparavant, il n'avait jamais été question de cela.
Alors ça existe, mais en fait ça serait un impôt particulier qui pourrait... Alors, le rapport est très compliqué et très long, mais je vous invite à le lire, vous pouvez le trouver sur le site de la municipalité. De victoria.ca. Mais en fait, ça serait dans le cas des urgences sanitaires comme on vient de connaître, ou d'une crise, ou par exemple d'une catastrophe, ce serait un fonds, ce ne serait pas vraiment un impôt, mais plus un fonds de solidarité qui pourrait être utilisé et déployé dans le cadre, dans ces cas-là d'urgence sanitaire ou environnementale, par exemple.
Eh bien, merci beaucoup, François Macon, pour toutes ces précisions. C'était une semaine assez chargée.
Oui, ça a été très chargé, très intéressant. Mais encore une fois, ça a été finalement le résultat de 2 mois de travail, hein, puisque je l'avais déjà annoncé. Mais en fait, dès le début de la pandémie, la municipalité et les élus et les services à la fois ont commencé à travailler sur ce plan de, ils appellent le plan de recovery, c'est-à-dire le plan de soutien et de relance. Et pour tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, j'avais déjà bien préparé le terrain, puisque j'avais fait une émission cette semaine de Regard sur le Grand Victoria, consacrée à Victoria, une émission spéciale Victoria et sa réponse face au Covid-19.
Merci beaucoup François, on se parlera cette fin de semaine pour un autre bilan.
Très, très probablement, ou peut-être même la semaine prochaine, mais ce sera avec plaisir dans tous les cas.
Merci, bonne journée, à bientôt.
Au revoir Marina.